Donc deuxième cours sur exercer le ministère dans l'excellence. Alors on a commencé à voir vraiment les bases de la base. Je vous ai montré que l'objectif du cours, bien sûr, c'est de pouvoir exercer le ministère avec le meilleur potentiel possible. On a idéalisé en mettant un plein potentiel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes appelés au ministère, eh bien on peut être plus ou moins productif. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que quand Dieu nous fait un don, eh bien ce don n'est pas à maturité. Dieu ne nous fait pas un don qui est à maturité, c'est-à-dire il nous donne un outil quand il nous fait un don, et ce don, évidemment, il va falloir qu'on l'exerce. Et plus nous l'exerçons, en faisant ce que Dieu nous demande au moment où il nous le demande et de la bonne façon, plus ce don va se développer et plus ça va être facile pour nous d'exercer dans le domaine où Dieu nous a oint, donc, et où il nous a fait ses dons particulièrement. Alors, on a vu des généralités sur le ministère, hein. On a vu que des gens qui commencent souvent, ils peuvent se casser le nez parce que ils ne savent pas, ils n'ont pas d'expérience. Et je vous rappelle que vous pouvez apprendre des beaux cours dans une école biblique, c'est bien, on connaît les principes, c'est très bien. Certains malheureusement rentrent dans le ministère en ayant beaucoup d'ignorance à la fois au niveau de la parole et à la fois au niveau de l'exercice du ministère. Et en fait, on s'aperçoit que certains se débrouillent bien, ils y arrivent petit à petit, mais ça demande du temps. Et d'autres finalement se cassent le nez parce qu'en fait, ils n'ont pas connu un certain nombre de principes bibliques de base, des principes fondamentaux qu'ils ne pratiquent pas et qui sont des choses courantes. Hein. Le ministère, ça s'apprend, il y a des choses qui s'apprennent, il y a des choses qu'on peut éviter, il y a des choses qu'on peut anticiper. Il vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant, il faut avoir un minimum de connaissances, mais la pratique ne remplacera jamais rien d'autre. Il y a l'aspect de la connaissance, acquérir de la connaissance, et l'aspect pratique. Il est évident que nous devons nous préparer au niveau de la connaissance, c'est ce que vous faites et c'est bien. Maintenant, il y a seulement quand vous serez dans le panier, hein, comme je vous ai dit hier, c'est seulement là où vous verrez ce que vous êtes capable de produire. Un fruit, on peut savoir quel jus il va produire seulement quand il est pressé. C'est toujours l'image qu'on donne, parce que c'est une bonne image. Si vous prenez une orange, vous pouvez pas savoir, sans l'ouvrir, forcément, si dedans le jus va être amer, ou le jus va être bien sucré, ou ça va être trop acide, etc. C'est avec les pressions de la vie, du ministère, on parle du ministère, qu'on peut voir ce qu'on peut donner, ce qu'on peut réellement produire. Tant qu'on est assis, il est très facile de critiquer et de dire, moi, si j'avais été lui, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Ça, tout le monde peut le faire tant qu'on est assis. Mais le jour où c'est toi qui es en charge de l'œuvre, eh bien, c'est là où tu réalises que finalement, tu fais pas forcément beaucoup mieux que les autres. Hein, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a un certain nombre de principes à savoir et pour éviter certains pièges. Alors, on a vu par exemple ce roi Roboam, qui était donc le fils de Salomon et qui a fait des blagues. Finalement, il n'a pas du tout pris conseil auprès de gens qui étaient expérimentés. Mais il s'est lancé dans la royauté, alors dans le leadership, si vous préférez, quand on parle de ministère, on parle de leadership. Et on a vu dans cette image de l'Ancien Testament, eh bien, cet homme qui démarre dans la royauté, et puis tout de suite il se casse le nez, il crée des sacrés problèmes dans son pays, parce qu'en fait, finalement, il écoute quoi ? Il écoute des gens qui sont complètement inexpérimentés, il s'entoure de gens qui finalement ont grandi avec lui, d'accord, bon, ils se connaissent bien, c'est des bons copains, très bien, mais les bons copains sont pas forcément les meilleurs conseillers, le meilleur entourage. Et finalement, s'il avait écouté les conseillers de son père, eh bien, il n'aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu après, c'est-à-dire le schisme du royaume. Même si Dieu l'avait dit à l'avance qu'après Salomon, il y aurait eu un schisme. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, c'est comme Jésus devait être crucifié, devait être livré par quelqu'un qui recevrait 30 pièces d'or. Mais Dieu n'a pas dit, j'ai prédestiné Judas à devenir le traître. Judas était un instrument du diable. Dieu avait dit que ça se passerait comme ça, effectivement. Mais donc il faut faire attention à cela. Quand on lit dans les Écritures, parce que dans ce passage, par exemple, de Chroniques, au chapitre 10, de 2 Chroniques, vous verrez que il est dit en fait que Dieu fit ça en quelque sorte, et c'est un temps permissif, bien sûr, parce qu'en fait, il y a eu cette personne a été l'instrument pour que ça se produise, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, tout simplement pour que le schisme se produise. S'il avait eu un bon cœur, ça ne se serait pas produit par cette personne, par ce roi Roboam. Donc, nous avons vu que ceux qui démarrent dans le ministère, en fait, ils pensent qu'ils connaissent tout mieux que tout le monde, donc ils critiquent. Ou alors ils se sentent timides et ils ne se jettent pas dans le ministère suffisamment, ce qui fait qu'en fait, leur potentiel est complètement réduit. Alors il y a un équilibre bien sûr dans les deux. Alors je vous ai montré aussi que dans le ministère, notre vie personnelle est importante en tant que chrétien. Quelqu'un qui est dans le ministère, c'est pas un surhomme. C'est vrai que quand l'onction est là, on se retrouve à faire des choses qui sont complètement surnaturelles et qu'on n'est pas capable de faire dans le naturel, c'est clair. Quand l'onction n'est pas là et quand l'onction est là, quand vous exercez le ministère, alors là, c'est le jour et la nuit. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que l'onction est quelque chose d'important à avoir quand on exerce le ministère. Et il y a parfois des moments où on est plus d'onction, il y a des moments où on a moins d'onction. Et je peux vous dire qu'on sent sérieusement la différence entre le moment où vous ressentez l'onction qui est sur vous, quand vous êtes en train d'enseigner, de prêcher ou de prier pour des gens, ou quand il n'y a pas d'onction. Ça, vous sentez largement la différence. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que notre vie personnelle, nous sommes d'abord des chrétiens. Quelqu'un qui est dans le ministère, c'est d'abord un chrétien. Donc il a d'abord sa vie chrétienne personnelle avec le Seigneur, et après il a son ministère. Quand le ministère commence à tout prendre et qu'il n'y a plus de vie personnelle, de ressources personnelles, ça commence à être mauvais. Il peut y avoir une suractivité de la personne, et parfois il y a des gens qui tombent malades comme ça, parce qu'elles abusent trop sur leur corps, c'est-à-dire ils sont tout le temps en train de faire des réunions, des machins, des trucs, etc. Et puis finalement, il n'y a pas de ressources à la fois spirituelles, à la fois morales, d'épanouissement moral ou même physique. Des gens, il y a eu l'histoire d'un serviteur de Dieu comme ça qui avait un puissant ministère de guérison. Il réunissait beaucoup de gens. Et cet homme, il est mort à 36 ans, et donc très jeune. Et en fait, les gens disaient de lui que son corps était tellement usé, il avait une bonne dizaine d'années dans le ministère, et son corps était tellement usé qu'on disait de lui qu'il avait le corps d'un homme de 90 ans, parce qu'il était complètement, c'était pas qu'il était ridé, mais il était complètement fatigué. Le gars, il faisait des réunions jusqu'à 3 heures du matin, et des fois, il n'avait pas d'intimité personnelle, les gens venaient le voir à toute heure de la journée, de la nuit, pour demander qu'on prie pour eux, pour leur maladie, il avait une telle onction. Et bon, et finalement, il n'a pas su avoir un équilibre, il mangeait à des heures complètement différentes, et puis, au bout d'un moment, bah, il y a eu sa santé qui a été déséquilibrée, tout simplement, l'équilibre biologique de son corps, et cet homme est mort prématurément, pouf, très rapidement, il était très très gros à la fin, et il est décédé prématurément alors qu'il avait vraiment un bon ministère. Bon, il faut pas penser que parce que quelqu'un a une onction, que ça y est, la personne est arrivée, hein. Ça y est, il n'y a plus rien, ça y est, les malades sont guéris, les gens sont sauvés, gloire à Dieu, donc c'est Superman qui est là, non, non, il y a la vie personnelle derrière tout ça, et ça je tiens à attirer votre attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le ministère c'est simplement, bah, voilà, je suis là, je prêche, et puis bah, c'est terminé. Gloire à Dieu, il y a tous les résultats, d'accord. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu es dans ta vie personnelle, bah, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne fais pas. Et si tu ne fais pas attention, c'est là où on se casse le nez, c'est là où on a des problèmes et c'est là où le diable en profitera. Parce que si on est des instruments de Dieu, le diable cherchera une faille. Soit il trouve la faille dans le ministère qui fait tout et n'importe quoi, des choses qui ne sont pas scripturaires, ou soit il trouvera la faille dans la vie de la personne. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Plus il y a d'onction, plus il y a de risques de s'égarer, de s'écarter. Si vous regardez des gens comme Benny Hinn, qui ont un puissant ministère de guérison aussi, c'est un homme qui fait extrêmement, extrêmement, extrêmement attention à lui, qui essaye de se corriger au moindre pas de travers. Et il est vraiment humble de ce côté-là. C'est un homme que j'ai vu plusieurs fois, il avait fait des erreurs, et il les a confessées carrément publiquement en disant non, je m'étais engagé dans ça, et c'était une erreur, ma femme m'avait dit de pas faire ça, je l'ai quand même fait, et vraiment, je me suis repenti devant le Seigneur. Il a déclaré ça devant des télévues chrétiennes et tout ça. Et cet homme-là est resté sur la piste, et d'ailleurs son ministère, à ce moment-là, quand il est passé par ces moments un peu, je dirais, difficile dans son ministère, d'un seul coup, il y a eu une marche qui s'est produite dans l'onction et dans son ministère. Il savait qu'il était à la croisée de deux chemins dans son ministère. Soit il commençait à se mettre avec d'autres prédicateurs où il y avait quelques scandales qui éclataient autour d'eux, ou soit vraiment il se mettait en règle avec le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, et son ministère, d'un seul coup, a explosé et d'une façon extraordinaire. Mais pensez pas, parce qu'il y a l'onction, que ça y est, hein. Ça, il y a des gens, parfois, ils font de grandes choses pour le Seigneur, ils ont des problèmes personnels, du péché personnel. Certains se cachent derrière ça en disant « mais de toute façon, Dieu m'utilise encore, d'accord ?» Dieu t'utilise encore, mais s'il y a du péché dans ta vie, attention, tu risques d'avoir des problèmes au bout d'un certain temps. Hein, on étudiera ces choses-là. Il faut faire attention, notre vie personnelle est quelque chose d'important. Donc Paul a fait des recommandations à Timothée d'être un exemple. Donc d'abord un exemple dans la vie personnelle, et tu es un exemple aussi en public. Ce que tu n'es pas en public, hein, il y a des gens qui prêchent. Moi, je connais des gens, par exemple, qui prêchent sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, parce qu'ils ont entendu des enseignements là-dessus, et ils sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas logique. Il faut que ce soit clair. Ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, on doit le vivre au maximum. En tout cas, on doit le désirer de le vivre au maximum. C'est quelque chose qui est important. Vie personnelle, ministère. On peut séparer les deux dans un sens au niveau de l'intimité, ça c'est clair, parce qu'il y a des gens qui font trop de mélange entre leur ministère, le ministère est tout le temps à la maison, et ça, c'est pas bon non plus, et les problèmes du ministère, et puis finalement, la vie de famille, ça ne va plus. Il y en a d'autres, c'est le contraire, ils séparent tout, hein, complètement, et finalement, ce qu'ils sont en tant que chrétiens, c'est pas du tout le reflet de ce qu'ils sont en tant que ministère, ok? Alors, maintenant, on va voir le chapitre 2. Chapitre 2, c'est rester sur la bonne route dans le ministère. Rester sur la bonne route dans le ministère. Rester sur la bonne route dans le ministère. Alors, il faut comprendre que dans le ministère, Dieu donc va nous donner des grandes lignes. Et nous avons une part à jouer pour qu'il y ait des choses qui se développent. Donc Dieu nous donne les grandes lignes. Dieu vous donnera pas forcément des précisions extrêmes, mais Dieu va vous donner les grandes lignes sur ce qu'il vous demande de faire. Et il va y avoir une production. Un ministère doit produire quelque chose, d'accord ? Ça, c'est clair. Quelqu'un qui se dit évangéliste, qui amène 3 chats, 2 souris et 3 araignées à Christ tous les 10 ans, hein, c'est pas un évangéliste. C'est quelqu'un qui produit rien. Ok ? Quelqu'un qui se dit enseignant, s'il enseigne des trucs qui créent du trouble dans le corps de Christ, ça ne va pas. Quelqu'un qui se dit pasteur, s'il en a 5 ou 6 qui le suivent, moi j'ai un problème avec ça. D'accord ? Donc, dans le ministère, il va y avoir une production, mais si vous êtes là au bon endroit à faire la bonne chose, hein, de la bonne façon, vous allez produire, mais il va falloir vous dire que, il y a ce terme qu'on va utiliser, il va falloir qu'il y ait une certaine excellence. Une certaine excellence. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, eh bien, ça va demander de la préparation et ça va demander du professionnalisme. De plus en plus. Il y a trop de gens qui sont dans le ministère, ce sont des amateurs. Bon, souvent, ça vient du fait qu'ils sont pas prêts, ils sont pas préparés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas, soit ils font pas d'école biblique, soit ils négligent des choses. Et ça ne va pas du tout. Il y a trop de gens qui sont dans le ministère et qui sont négligents envers tout. Ils sont négligents dans les choses de Dieu, mais ils sont aussi négligents dans les choses naturelles. Et la négligence n'est pas une bonne chose, nous allons le voir. Si on est dans le ministère, on doit essayer, comme nous le verrons, de faire du mieux possible. On doit rechercher à faire du mieux possible. Et que vous soyez pasteur d'une église que vous démarrez, que vous ayez un ministère d'évangéliste, que vous soyez enseignant, ministère prophétique et apostolique, on n'en parlera pas parce que ce sont des ministères qui sont déjà beaucoup plus rares, qui demandent vraiment une onction beaucoup plus puissante. Mais je dirais les 3 ministères qu'on voit le plus souvent, d'abord bien sûr c'est le pastorat, nous le savons, hein, c'est le ministère le plus courant. Bah, faire une église, ça s'improvise pas. C'est pas quelqu'un qui vient et qui dit voilà, Dieu m'a dit de faire une église, qui fait ça comme ça, puis dit bah Dieu fera le reste quoi. Non, tu vas avoir ta part à jouer. Être dans un ministère d'évangélisation, c'est la même chose. Tu peux très bien avoir une onction, une puissante onction d'évangélisation, et mettre ton ministère par terre, complètement. Parce que tu négliges des choses d'excellence. C'est-à-dire tu négliges le fait de te dire que c'est toi qui vas être obligé de mettre en place des choses. Et ces choses, il va falloir que tu fouilles. Il y a des choses que tu connais, des choses que tu ne connais pas. Dans le ministère, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. À la fois spirituelles, mais à la fois aussi dans le naturel. Parce que dans le ministère, il y a les deux côtés. Il y a le côté spirituel et il y a le côté naturel. Il y a le côté de la vie spirituelle, il y a le côté de l'onction, il y a le côté de la prédication, il y a le côté de la prière pour les gens, ça, tout ça, d'accord. Mais il y a aussi le côté naturel. Dans les deux, il va falloir qu'on travaille, qu'on œuvre, qu'on cherche à essayer du mieux possible, à faire du mieux possible, du mieux qu'on peut. Et ça va nous demander, finalement, d'être à l'école du ministère nous-mêmes. Vous savez, quand vous êtes dans le ministère, vous êtes quand même à l'école du ministère. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là et vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses. Faut pas penser que quelqu'un arrive, voilà, il prêche et basse, c'est terminé, voilà le ministère. Ça c'est complètement faux. Ça c'est complètement faux. Ça c'est une idée du ministère qui est complètement fausse. Vous aurez affaire à des choses spirituelles, de bonnes choses, des mauvaises choses qui iront contre vous. Mais vous aurez aussi affaire dans le naturel à tout un tas de problèmes à régler. Donc partout, il faudra que vous gagniez du terrain pour faire du mieux possible. Du mieux possible, c'est-à-dire rechercher une certaine excellence. Notez que l'excellence est l'opposé de la médiocrité. On verra la différence entre les deux. L'excellence est l'opposé de la médiocrité. On donnera tout à l'heure la définition précise de la médiocrité. L'excellence est l'opposé de la médiocrité. Et cela commence avec la personne. Cela commence avec la personne. Non pas avec le don. Non pas avec le don que Dieu a fait, ou le ministère, si vous préférez. Le don ministère, si vous préférez. Même avec le don, ça marche aussi dans le ministère d'aide. Quelqu'un peut très bien être appelé et se sentir appelé à chanter et se voir vraiment appelé par le Seigneur à ça et ne jamais travailler sa voix et rester un chanteur médiocre ou son instrument de musique. C'est tout à fait, je veux dire, c'est bon, on prend souvent cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus typique, mais il va y avoir quelque chose qui doit se passer chez cette personne. Un désir d'avancer, de se dire de progresser, de chercher aussi ce qui est scripturaire, ce qui n'est pas scripturaire, de chercher à avancer dans ce domaine-là. Notez que l'excellence commence avec l'attitude. L'excellence commence avec l'attitude et non pas l'aptitude. L'excellence commence avec l'attitude et non pas l'aptitude. L'aptitude, c'est être capable de faire quelque chose, la capacité à faire quelque chose, l'aptitude. Aptitude, c'est A2T, aptitude, c'est APT, d'accord ? Hein, être apte à quelque chose, c'est être capable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je suis capable de faire ça ». Bon, d'accord. Mais tu peux très bien te sentir capable de faire quelque chose et mal le faire. Il y a des gens, par exemple, qui disent « je suis capable de prêcher ». Bon, d'accord. Mais quelle est ton expérience et quelle est ton excellence dans le domaine de la prédication ? Est-ce que tu es capable de te préparer correctement ? Et puis, à force de pratique, tu verras que tu développeras ce don si Dieu t'appelle à cela. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. Je vous ai dit, un don ne vient pas à maturité tout de suite. Loin de là. Un don qui nous est fait n'a pas de maturité au départ. C'est un outil que nous avons. Maintenant, il va falloir être habile avec cet outil. Il va falloir utiliser cet outil. Donc vous voyez, il y a des gens qui se pensent capables, qui se disent « moi, je parle bien, donc je peux prêcher. Moi, je suis un bon organisateur. » Moi, j'ai déjà entendu des gens comme ça qui me disaient, même qui sortaient de certaines écoles, qui me disaient « moi, de toute façon, dans mon école, j'ai appris comment gérer une église, je suis capable de gérer une église. » D'accord, mais tu n'avais pas l'attitude de gérer une église. C'est très différent. Et Dieu va regarder à cela, va regarder à notre cœur. Vous savez, il y a des gens, parfois, on voit que ce sont des gens qui ont construit, qui ont des ministères vraiment qui marchent très très bien. Si vous saviez leur éducation au départ, vous seriez étonné. Certains, des gens, par exemple, comme Kenneth Hagin, qui a un ministère aujourd'hui, qui a des millions de dollars dans son ministère, vaut des millions de dollars. Ils ont je ne sais plus combien d'hectares de terrain aux États-Unis, l'école a je ne sais pas combien de bâtiments, etc. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de millions de livres en circulation dans le monde entier. Bon, etc., etc. Je peux vous dire une chose, cet homme-là, quand on voit son arrière-plan d'éducation, il n'a même pas les humanités. Il a moins que les humanités, cet homme-là. Mais il est utilisé par Dieu, parce qu'il avait l'attitude pour être utilisé par Dieu. Et quand vous voyez l'excellence dans son ministère, quand vous allez dans les bureaux, quand vous voyez comment le ministère est géré, je vais vous dire une chose, vous vous sentez dans une société américaine. Et pourtant, cet homme-là, il a jamais eu fait de master ou de maîtrise ou de quoi que ce soit, en gestion, en finance ou quoi que ce soit. Mais il a su, par contre, avoir des gens qui l'ont aidé correctement, parce qu'il avait un don, il avait l'attitude, Dieu l'a utilisé, et il a su faire progresser son ministère, à la fois spirituellement et à la fois dans le naturel. Voyez. Donc l'attitude va être très déterminante pour un ministère. L'attitude, c'est déterminant. Et ça, faut toujours se poser la question, quelle est mon attitude dans le ministère ? Quelle est mon attitude ? Parce que c'est avec ça que Dieu va travailler. Dieu ne travaillera pas avec nos capacités naturelles. Il ne cherche pas des gens surdoués. Non. Ça, c'est le monde qui cherche des gens surdoués, vous savez. Les gens surdoués, c'est les gens du monde. Et c'est là où on dit, ah, celui-ci, il est super intelligent, donc paf ! Alors, on peut le nommer dans telle ou telle position. Mais la Bible ne nous dit pas ça de la part, justement, de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu cherche des gens selon son cœur. Vous connaissez tous ce verset qu'on va relire, hein. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Il ne faut pas que vous pensiez que, finalement, quelqu'un peut réussir dans son ministère parce que, au départ, il avait les bonnes billes. C'est-à-dire, soit il avait des sous, soit il était super intelligent, soit ceci, soit cela. On verra que développer des choses dans les capacités, dans le naturel, c'est important, c'est vrai, mais ça ne fera pas tout. L'un et l'autre sont erronés. Être super spirituel et négliger complètement le naturel, ça vous amènera que des problèmes. Mais être très fort dans le naturel et être très faible dans le spirituel vous amènera aussi des problèmes. C'est-à-dire votre ministère, il sera fait bien réglé, entre guillemets, dans le naturel, mais il n'y aura pas l'onction. Il n'y aura pas une production spirituelle. Et il va y avoir un équilibre entre les deux à avoir. À savoir que la personne est un cœur clair, honnête, devant le Seigneur, et Dieu va lui faire des dons, Dieu va loindre cette personne. Mais à côté de ça, cette personne devra comprendre que si elle veut développer son ministère, tout ne reposera pas sur les choses spirituelles. Parce que ça, c'est une erreur qu'on peut voir chez certaines personnes. Certains ministères ne voient les choses que dans le domaine spirituel. Ah, Dieu m'a oint, il y a eu des guérisons, il y a eu des gens sauvés, il y a eu des gens qui sont baptisés de l'Esprit, il y a des gens qui sont touchés par Dieu. D'accord. Gloire à Dieu, ça c'est la production spirituelle. Mais derrière tout ça, si tu n'as pas le récipient naturel qui permettra de faire vraiment marcher les deux, ça ne fonctionnera pas. Tu auras un problème. Tu auras un problème dans ton ministère. Il y a des gens qui ont eu des sacrés problèmes entre les deux. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de William Branham. Branham avait un puissant ministère au départ. C'était un homme mais puissamment utilisé par Dieu. Par contre, il avait un big problème. C'est qu'il était très peu enseigné sur la parole de Dieu. Donc au niveau de la doctrine, il était très mauvais, Branham. Ça, c'est clair. Par contre, au départ de son ministère, quand ça marchait très bien, il avait un certain Gordon Lindsay qui était avec lui. Et Gordon Lindsay était un homme qui était un excellent organisateur. C'était un quelqu'un de spirituel, qui connaissait bien la parole de Dieu, et en même temps qui était un excellent organisateur. Et en fait, à chaque fois que Branham faisait des campagnes de guérison, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'il travaillait en équipe. Et il y avait Gordon Lindsay, et aussi, il y avait un certain Bosworth, qui a été un homme assez âgé à l'époque de Branham, du ministère de Branham. Et ce Bosworth, c'était un évangéliste, et aussi, il enseignait beaucoup la parole de Dieu, c'était un très bon enseignant sur la guérison divine. Et souvent, ce qu'ils faisaient, par exemple, ils avaient fait une croisade en Afrique du Sud, souvent, ce qui se passait, c'est que il y avait Branham, les croisades de Branham qui étaient annoncées, mais il y avait toujours des gens derrière lui qui préparaient le terrain. Il y avait des gens qui enseignaient la parole, il y avait des gens qui enseignaient sur la foi, etc., etc. Puis Branham exerçait le don de guérison et les révélations qu'il recevait. Et alors là, ça se passait très bien. Malheureusement, un jour, Lindsay et Branham, ils se sont fâchés parce que Branham lui cherchait des histoires. Et Lindsay a dit, écoute, si c'est comme ça, moi, je préfère qu'on se sépare. C'est pas la peine que ça se termine mal. Et ils se sont séparés. Le jour où Gordon Lindsay a quitté donc le ministère de Branham, à partir de ce jour-là, ça a été la catastrophe. Les croisades suivantes que Branham a fait, c'est vrai, il y avait des gens guéris, d'accord, mais financièrement, c'était la catastrophe. L'organisation, c'était la catastrophe. Les gens n'écrivaient pratiquement plus au ministère de Branham, etc., etc. Et ça a été le début de sa chute. C'était le début de sa chute. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse être un complément à son ministère. Et ça a été une catastrophe. Après, il s'est mis dans des fausses doctrines, alors qu'au départ, c'était Lindsay qui s'occupait de la doctrine et toutes ces choses-là. Et Branham, lui, il exerçait simplement les dons de guérison qu'il avait reçus. Et vraiment, les gens étaient... il y a eu des miracles extraordinaires, il y a eu des résurrections, il y a eu vraiment des choses absolument fabuleuses dans son ministère à Branham au départ. Mais comme il a complètement dévié après doctrinalement, au bout d'un moment, et puis il a fini, il est mort prématurément. Donc vous voyez, le naturel et le surnaturel, ça fonctionne ensemble. On peut s'améliorer dans les deux, à savoir que d'une part, quand quelqu'un reçoit des dons de Dieu, il peut savoir les développer, les exercer, sachant que de toute façon, je vais vous dire une chose, l'onction, personne n'y est pour grand chose. Ça, sachez-le bien. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un exercer dans l'onction que cette personne est super spirituelle forcément. Non, ça c'est complètement faux. Dieu nous oint, la responsabilité de l'onction, c'est l'onction. Vous êtes là, vous priez pour les gens, vous faites ça, paf, 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 les choses se produisent et c'est fini. Vous y êtes pour rien. Parce que dans l'onction, il y a très peu de foi. Il y a un élément de foi qui est très faible quand on exerce dans l'onction. Extrêmement faible, parce que vous ressentez les choses avec l'onction. Alors que dans la foi, là par contre, vous ne ressentez pas quelque chose, mais vous y allez, vous proclamez la parole de Dieu et ça c'est différent. Et quand vous exercez dans l'onction, vous êtes porté de toute façon. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous porte. Alors c'est facile, vous dites les choses, ça se produit, etc. etc. Donc, et c'est là où un peu c'est trompeur chez certaines personnes, parce que finalement, elles voient qu'elles produisent pas mal de choses dans l'onction, mais dans le naturel, c'est la catastrophe. Dans le naturel, beaucoup de gens ne se développent pas, et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc l'excellence, ça va être des deux côtés. Je me développe dans le côté spirituel, et je me développe aussi du côté naturel. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, parce que nous toucherons un petit peu certaines choses, mais il y a des choses dans le naturel qui sont importantes. Si vous ne les faites pas, ça vous créera des problèmes. Le diable en profitera. Le diable en profitera parce que ça ouvre des portes. Alors, 1 Samuel 16, 7, Samuel, Dieu va choisir donc un successeur entre guillemets à Saül. Le roi Saül a dévié. Quand vous lisez 1 Samuel du chapitre 9 au chapitre 16, eh bien en fait, on voit Saül qui n'était rien du tout. Et puis finalement, Dieu l'appelle, alors qu'il n'était strictement rien. Il était quelqu'un de petit à ses yeux. Et en fait, on s'aperçoit que Saül, d'un seul coup, se trouve propulsé, vraiment par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, en tant que roi, d'un seul coup. Mais il va avoir une attitude absolument épouvantable. Absolument épouvantable. Saül, je dirais à la première épreuve, au premier examen, il va déjà se planter, complètement. Il va faire n'importe quoi, il ne comprend pas l'onction. Samuel a l'onction du sacrificateur et du prophète. Saül arrive, il offre les holocaustes, etc. C'est une catastrophe totale. Alors que dans l'histoire d'Israël, il y avait déjà eu un certain nombre d'exemples comme ça où des gens avaient essayé de fonctionner sous l'onction de quelqu'un d'autre en offrant certains sacrifices, en amenant du feu étranger, etc. Enfin, il y avait eu pas mal d'histoires que Saül connaissait. Malgré cela, il va usurper l'autorité spirituelle que Dieu avait donnée au prophète Samuel. Il fait une faute. Ça peut arriver à tout le monde de faire une faute dans le ministère. Mais là, Saül va déployer une très mauvaise attitude. Il va faire cette première faute et Dieu va lui redonner encore une chance. Il avait dit d'attaquer telle ville, etc. Et Dieu leur avait dit, vous dévouez tout par interdit. Et Saül ne va pas écouter. Il va garder une partie des choses. Et là encore, il va contester. Son attitude était mauvaise. Son attitude était rebelle, tout simplement. rebelle à Dieu, rebelle à l'autorité spirituelle. Et ça, la deuxième chance que Dieu lui a donnée, il a encore loupé. Et il a fait pire, il a commencé même à s'y prendre physiquement au prophète Samuel, en voulant lui arracher son manteau. Et là, le Seigneur a donné une parole à Samuel, il a dit, t'es rejeté, ça y est, c'est terminé pour toi, c'est terminé pour toi. Bon, donc Dieu va choisir quelqu'un d'autre, mais là aussi on pourrait étudier. C'est intéressant de voir que Dieu n'a pas enlevé l'onction royale sur Saül. David n'a pas pu prendre la suite de Saül tant que Saül n'était pas mort. Et David n'a jamais cherché à tuer Saül. Mais l'onction, il a attendu que l'onction soit sur lui et il a attendu que la place soit libre. Vous voyez ? Là aussi David a respecté, il a su un certain nombre de choses à propos de l'autorité spirituelle. 1 Samuel 16:7 nous dit donc tous les fils d'Isaïe vont passer devant le prophète Samuel, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir là-dessus. Et Dieu lui dit, parce que même Samuel, bon, il fait un peu des différences, il dit, ah, celui-ci c'est un grand garçon, c'est certainement celui-ci que tu as choisi, Seigneur, etc., etc. Et puis vous connaissez cette histoire où il est dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa hauteur de taille, car je l'ai rejeté, c'est-à-dire c'est pas lui que j'ai choisi, c'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, d'accord ? C'est ça qui est important, c'est le cœur. On peut faire des erreurs, on peut manquer de préparation, mais c'est le cœur, c'est l'attitude qui va être importante. C'est l'attitude qui est extrêmement importante au niveau du ministère. Ça, c'est très important. Donc ne regardez pas là où vous démarrez, quand vous démarrez dans le ministère, à vos aptitudes naturelles. C'est-à-dire ne comptez pas sur ces choses-là. Dieu les choisira certainement, Dieu les utilisera, ces aptitudes naturelles, mais c'est pas sur ça que nous devons nous appuyer. C'est là où il nous faut nous appuyer, c'est vraiment en ayant une bonne attitude. Parce que c'est là où Dieu nous amènera à découvrir des choses, à nous perfectionner dans des choses, tout simplement. À améliorer ce que nous sommes dans les différents domaines. Donc ne pensez pas qu'il y a des Superman qui arrivent, il reçoit l'onction, Superman y va, il devient le grand ministère avec un grand M, et tout marche simplement. Non, pas du tout. Par contre, il faudra connaître ses points forts, il faudra connaître ses failles. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le ministère, vous verrez que vous avez des points forts et vous verrez que vous avez des points faibles. Évidemment, les points forts, il faut apprendre à ne pas s'appuyer dessus et à s'en glorifier. Et les points faibles, il va falloir les renforcer pour que ça devienne des points forts aussi. Et ça sera le travail de l'individu. Ça ne sera pas le travail de Dieu, ça sera le travail de l'individu, tout simplement. Alors, Paul nous donne cet aspect de l'excellence dans le ministère. Il nous en parle dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, 4 et 5. Il va nous montrer l'attitude. 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 et 5. On va lire à partir du verset 1. Rappelez-vous, ce sont les épîtres pastorales, les épîtres à Timothée. C'est là où un ministère en exercice va exhorter un autre ministère en exercice. Il est dit au verset 1, « Toi donc, mon enfant de Timothée 2, à partir du verset 1, fortifie-toi ou puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi ?» Donc, voyez, Paul fait le papa, d'accord ? Le papa dans le ministère. Ça aussi, on pourrait en parler. Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit un papa dans le ministère pour quelqu'un d'autre ? Pour le suivre, pour le former. Il y a tout un tas de débats dans le corps de Christ pour dire, voilà, il faut forcément que quelqu'un qui est dans le ministère et une couverture spirituelle par un papa spirituel, quel est ton père spirituel, etc. Ça tourne beaucoup dans le corps de Christ, ce genre de questions. Vous pouvez parfois être formé par des gens directement et après être le produit de leur formation et les ayant suivis. Par exemple, vous avez un pasteur qui est là, qui a fondé une église ou qui est dans le ministère depuis 20 ans, 30 ans, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui au début fait différents trucs dans l'église, puis petit à petit est formé, hein, sur le tas, ce qu'on appelle. Et puis après, ce jeune homme commence à prendre un peu d'âge et puis dit, voilà, le Seigneur me montre qu'il faut que je démarre telle église. On enfante en quelque sorte un ministère. Bon, ça peut se faire, oui. Bon, il y a d'autres moyens. Nous, personnellement, nous n'avons pas eu, je dirais, de père spirituel de ce côté-là. Mais ce qu'on a vu, en tout cas, moi, ce que j'ai vu aux États-Unis m'a énormément appris. La plupart de mes enseignements sont basés et fondés sur ce que j'ai eu à Réma, à l'école biblique. J'ai affiné certaines choses, j'ai travaillé certaines choses, j'ai travaillé sur des traductions, j'ai travaillé sur le grec, j'ai travaillé sur différentes choses, c'est sûr. Mais une bonne partie de ce que vous avez ici à l'école biblique, ce sont des cours, ce sont des enseignements que j'ai pu moi-même avoir, dont j'ai pu bénéficier. En tant que pasteur, je reconnais beaucoup plus et j'ai appris beaucoup plus d'un pasteur qui s'appelle Bobby Indian dans l'église où nous étions à Grace Fellowship aux États-Unis pendant les 3 ans que nous avons passé là-bas. Parce que j'ai vu comment il organisait son église, j'ai vu sa façon de faire. Et j'ai dit, ça, c'est vraiment une façon qui porte des fruits, qui est bonne et qui vraiment est un modèle pour moi, si vous voulez. Donc, c'est important de pouvoir se relater à des modèles, se référer à des modèles, d'accord ? Que ça aussi, c'est important. Bon, on voit que Paul, ici, exhortait Timothée. Timothée, c'était son enfant dans la foi, vous vous rappelez ? Il s'était trouvé, je crois, dans Actes 16, si mes souvenirs sont bons. Et puis, Timothée avait suivi le ministère de Paul. Et puis, nous savons que dans l'Épître à Timothée, Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse. C'est ce que l'histoire de l'église nous rapporte. Et en fait, Timothée, bien sûr, avait besoin d'encouragement, de voir un petit peu, d'avoir des conseils de son père spirituel à l'époque. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'école biblique établie. La seule qui avait été faite, c'était par Paul à Éphèse pendant 3 ans. Mais en dehors de ça, on n'a pas encore de centre de formation pour les serviteurs de Dieu. C'est clair, à l'époque du Nouveau Testament. Bon. Mais Paul, lui, exhortait bien sûr les différents ministères qu'il avait formés, entre autres, ou ceux qui étaient intéressés et qui suivaient son ministère. Et il dit, « Est-ce que tu as entendu de moi ? En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, c'est-à-dire des gens, des croyants, bien sûr, et des gens aussi fidèles qui soient prêts, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors après, il donne des images. Il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc là, il prend un exemple dans l'armée. Il dit, voilà, quelqu'un qui veut être un bon militaire de carrière, il sera militaire dans la peau et il y aura ce désir de plaire et d'avancer et de faire du mieux qu'il peut. Ensuite, alors il prend l'exemple du sport. Et rappelez-vous qu'à l'époque, hein, les Jeux Olympiques que nous pouvons voir sur les diverses télévisions du monde aujourd'hui sont issus de cette époque, hein, de l'époque des Grecs entre autres, hein, de l'Empire grec. C'est là où les Jeux Olympiques sont nés et c'est là où il y a eu cet aspect d'athlète. Hein, ça vient d'un mot grec bien évidemment, ce mot athlète. Et il est dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et quand on parle d'athlète, on parle de gens qui s'entraînent et de gens qui cherchent quoi ? Qui cherchent à gagner, qui cherchent à réussir. Donc Paul prend cette image. Il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Donc finalement, Paul nous donne des images ici de quoi ? De dire, voilà, si tu es dans le ministère, c'est qu'il doit y avoir une réussite dans ton ministère. Chercher à réussir dans son ministère n'est pas du tout de l'orgueil. Mais c'est une condition d'excellence, c'est-à-dire c'est un désir d'excellence. Si tu te dis, si Dieu te donne une tâche à faire, il faut que tu réussisses à faire cette tâche. Parce que Dieu d'abord ne te dira pas de faire quelque chose que tu ne pourras jamais faire, c'est-à-dire tu vas avoir ta part à jouer, et il faut que le succès soit à la clé. Parce que l'opposé du succès, c'est quoi ? C'est l'échec. Et quand quelqu'un est appelé au ministère, ou que Dieu lui donne une tâche à faire, cette personne doit réussir ce qu'elle fait. Et doit donc exceller dans le domaine dans lequel Dieu l'appelle. Ça, c'est normal. Ce n'est pas du tout être vaniteux de dire qu'on doit réussir dans notre ministère. Au contraire, c'est quelque chose qui est normal et qui est biblique. Donc réussir ce que Dieu nous demande de faire, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait biblique. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que dans le ministère, vous savez, il y a des gens, ils parlent de l'appel. Et ça, c'est un sujet un petit peu, hein, je vous donne des idées pour vous montrer de plus en plus ce que ça représente. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ont des appels très forts. Par exemple, Dieu leur envoie une vision quand il les appelle. D'autres sont appelés de façon très, très spectaculaire. Et sachez une chose, c'est pas la façon dont vous avez été appelé qui va déterminer le succès dans votre ministère. Ça, vous pouvez très bien avoir une vision et louper complètement ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous pouvez très bien ressentir un appel, vous sentez que c'est dans votre cœur, dans votre esprit, sans qu'il y ait de prophétie, de voix audible ou de choses très fortes, et avoir un succès terrible, extraordinaire. Ça, la façon dont Dieu va vous appeler, aussi spectaculaire soit-elle, ne déterminera pas si vous allez réussir ou échouer. Ça n'a rien à y faire. Il y a des gens, des fois, qui racontent de grandes choses que Dieu a faites quand il les a appelés, et quand on voit les fruits de leur ministère, on dit, attends, d'accord, c'est bien, mais là, t'as loupé quelque chose. T'as complètement loupé quelque chose. Donc la façon dont Dieu va nous appeler, c'est pas un signe de réussite dans le ministère. Notre aptitude naturelle n'est pas non plus un signe, nous l'avons vu, dans la réussite du ministère. Par contre, ce qui va être un signe, qui va être quelque chose d'important, c'est notre attitude et notre fidélité. La fidélité va être quelque chose d'important. Fidélité, ça va être quelque chose d'extrêmement important, on en parlera. La fidélité va être quelque chose d'extrêmement important. L'attitude et la fidélité vont être des choses importantes. Donc quelqu'un qui dit « Moi, je veux réussir dans le ministère que je fais », c'est très bien, il le faut. C'est un bon désir. Bien sûr, il ne faut pas que ce désir soit un aspect de compétition, nous le verrons aussi. Il y a des gens aussi qui aiment bien dire « Ah, dans mon église, j'ai tant de personnes, je prêche devant tant de milliers de personnes, j'ai eu dans ma croisade tant de personnes qui ont été sauvées, etc. etc. » Nous allons parler aussi de cette attitude-là et nous la verrons chez les disciples, l'esprit de compétition, nous en parlerons. Bon, alors, la fidélité va être quelque chose d'extrêmement important pour réussir dans mon ministère. Donc, d'abord, vous voyez bien que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous devons réussir. Nous devons vraiment réussir ce que Dieu nous demande de faire. Mais vous voyez bien aussi qu'il est possible d'échouer. Donc, il faut le savoir. C'est pas parce que quelqu'un a un appel, que même quelqu'un a une onction, qu'il va forcément réussir dans ce qu'il va faire. Il peut échouer. Cette personne peut échouer. Tout va dépendre de son attitude. Saül en est un exemple. Vous l'avez vu, il avait l'onction royale, il avait l'appel, un appel fort, il avait une onction royale, c'est clair, mais il a échoué complètement. Il s'est complètement cassé la figure et la fin de sa vie a été un drame. La vie de Saül a été un drame complet parce que son attitude était mauvaise. C'était pas un homme fidèle, il avait vraiment des traits de caractère, il avait beaucoup de jalousie dans son cœur et il n'avait pas cet esprit d'excellence. Paul va nous dire qu'il va y avoir des contraintes pour réussir. Regardons dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Paul va nous montrer, du verset 24 au verset 27. Paul va nous montrer que lui-même faisait attention à éviter l'échec. Qu'il veillait. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Paul lui-même nous montre qu'il va faire lui-même attention à éviter en fait les échecs. Et il va mettre la responsabilité sur lui. Vous allez voir. Il va pas mettre la responsabilité sur Dieu. Dieu, lui, il donne l'onction. Il appelle, il donne l'onction. Il nous explique ce qu'on doit faire. Mais maintenant, c'est à nous de voir comment on va faire les choses. C'est à nous de voir quelle est l'attitude que nous allons déployer dans le ministère. Et au verset 24, il reprend la même idée que nous avons lue dans Timothée. La même idée. Dans 2 Timothée 4... C'est exactement la même idée que dans 1 Corinthiens 9. Mais Paul explique un peu plus pour sa vie personnelle. Il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. » Mais nous avons des concurrents. Les concurrents ne sont pas les autres ministères. Les concurrents sont les circonstances, les attaques diaboliques, tout ce qui pourra s'opposer à ce que nous remportions le prix, c'est-à-dire que nous puissions réussir dans le ministère. Les concurrents ne sont pas les autres ministères. Moi, quand je vois certains pasteurs qui essayent absolument d'arracher les âmes des autres églises pour les amener dans leurs églises, ou d'autres qui enferment leurs âmes dans leurs églises pour empêcher d'autres de profiter d'autres ministères, on voit que là, ces gens-là, ils estiment que leurs concurrents dans le ministère, c'est quoi ? C'est les autres ministères. Et ça, c'est une très très mauvaise attitude. La concurrence dans le ministère ne sont pas les autres ministères. La concurrence, c'est les mauvaises circonstances, c'est les attaques diaboliques. C'est les failles personnelles aussi, dans notre caractère. Donc les mauvaises circonstances, et les attaques diaboliques et les failles, c'est-à-dire les portes ouvertes qu'il pourrait y avoir dans notre personnalité. Tout ça, ce sont les concurrents. Et Paul va parler au verset 25 de son attitude, de sa vie personnelle, pour des raisons très spécifiques. Regardons ensemble. Tout lutteur, donc les gens qui luttent, hein, qui font de la lutte, ce sport de lutte, s'impose, vous voyez bien, s'impose eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui s'imposent des choses. Toute espèce d'abstinence. Vous savez, par exemple, vous avez des boxeurs. Il y a des boxeurs, vous savez, ils marchent par catégorie de poids. Il y a les poids plumes, les poids lourds, les poids machins, les poids moyens, etc., les mi-coques, là, je sais plus trop quoi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Vous savez que ces boxeurs-là, ce qu'ils font avant, la veille de la compétition, on les pèse. Ces gens-là, ils se mettent au régime, vous savez, alimentaire. Parce que si jamais ils pèsent 0,5 kg ou 1 kg en plus, ils passent dans l'autre catégorie. Donc déjà, ils se préparent pour passer le test de la balance, pour vous donner un exemple. Parce que sinon, ils sont disqualifiés pour le combat, ils ne peuvent pas combattre. Alors dis non, toi tu peux pas combattre dans cette catégorie-là, il faut que tu affrontes l'autre. Alors évidemment, l'autre, il fait 10 kg ou 15 kg de plus ou 20 kg. Alors là, ils se trouvent mal. Et des fois, pour 0,5 kg, ils perdent. Ils perdent la catégorie, si vous voulez. Ils sont obligés de combattre dans les catégories supérieures et ils sont pas du tout prêts à ça. Donc, ils s'imposent des certains régimes alimentaires pendant un certain temps. Bon, un coureur cycliste, il est pas là le jour de la compétition. Il est pas là en train de prendre son vélo et dire, bon, finalement, ça fait 3 mois que je suis pas monté sur mon vélo pour m'entraîner, mais je compte gagner la compétition. Il gagnera jamais la compétition. Il s'est déjà entraîné, il s'est déjà formé. Le jour où il sait que la compétition arrive, il est prêt. Il va enfourcher son vélo et il sait qu'il est déjà prêt, il connaît ses performances du moment. C'est pareil pour tous les coureurs, pour tous les sports. Et c'est bizarre parce que vous voyez que ici, Paul, vous voyez, que ce soit dans Timothée, que ce soit dans Corinthiens, Paul fait cette comparaison avec les sportifs. La façon dont les sportifs s'entraînent, ça nous donne vraiment des comparaisons au niveau du ministère. Préparation, entraînement, professionnalisme. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux, pour recevoir une couronne corruptible, bien sûr. Là, il dit, je parle dans le naturel. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible. Là, on parle dans le royaume de Dieu. Mais il fait cette comparaison, pas pour rien. Moi donc, je cours. Vous voyez, Paul dit, je cours. Il est dans une course. Quand vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une course. Pas la compétition avec les autres ministères. Mais vous êtes dans une course par rapport au but que Dieu vous a donné. Aux choses que Dieu vous a donné à faire. Vous êtes là, Dieu vous a donné des objectifs. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans le ministère en disant, ben voilà, je t'appelle à faire ce que tu veux. Non, pas vraiment. Dieu te dit, tu dois faire ça, ça et ça, et tu auras une onction pour ça. Tu seras équipé pour ça. Prépare-toi pour ça. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. C'est-à-dire, je vais pas un peu partout. Je donne des coups de poing, mais non pour battre de l'air. Je suis pas un lutteur dans le naturel. Je suis pas en train de faire du bruit ou faire beaucoup de choses autour qui font du bruit, qui annoncent des trucs et des machins. Vous savez, il y a des gens, ils veulent faire parfois des croisades d'évangélisation, ils veulent faire parfois des églises, ils veulent... Vous savez, il y a des gens qui viennent, même dans les pays où nous sommes, des ministères étrangers, je le dis, à la honte de ces gens-là, simplement pour avoir des foules, et pour prendre des vidéos et des photos, je vous assure, et pour aller raconter après ce qui s'est passé dans tel et tel endroit du monde, en disant, voilà, j'ai prêché devant 20 000 personnes. Mais je vous assure, ça fait de la publicité pour leur ministère. Je vous assure, mes amis. Je vous assure. C'est triste à dire. Il y a des gens qui aiment avoir du monde dans leurs églises rien que pour dire j'ai tant de personnes dans l'église. Ou qui vont à l'extérieur pour aller raconter qu'ils ont 1000 personnes dans leur église alors qu'ils en ont 150. Ça, je vous assure. En anglais, il y a une expression comme ça où on dit evangelistically speaking. Ça veut dire que les gens qui parlent comme ça, on sait qu'ils racontent du baratin, quoi. C'est un pour quatre en quelque sorte. Il y en avait quatre, mais non, finalement, il n'y en avait qu'un seul. Mais ça, c'est triste, mais il y a des attitudes comme ça, vous savez. Mais Paul, lui, il dit non. Il dit au contraire, regardez bien ce que Paul dit. Je traite durement mon corps. Il parle du corps ici. Je prends la décision de traiter durement mon corps. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je le maîtrise. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Donc Paul dit non. Moi, dans ma vie personnelle et dans mon ministère, je veux du professionnalisme. Je recherche cette excellence. Mais c'est ma responsabilité. Vous voyez, Paul ne parle pas de Dieu ici. Vous voyez bien. Il dit pas « je prie Dieu pour qu'il m'aide à tenir le coup ». Il dit « je », c'est moi. Et je vous ai dit, dans le ministère, vous aurez des pressions que vous n'aurez pas en tant que chrétien. Quand quelqu'un est dans le ministère, il a des pressions spirituelles, morales, parfois même physiques, qu'il n'aura jamais en tant que chrétien. Donc ne pensez pas que parce que quelqu'un vient comme ça, qu'il prêche, etc. Vous imaginez pas que quand quelqu'un porte des fruits dans un ministère, vous ne savez pas ce qui se passe tout autour. Vous ne savez pas ce qui se passe tout autour de lui. Donc ne jugez pas rapidement ça. Parce qu'il y a des pressions dans le ministère. Et des pressions qui sont parfois extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Et Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Il dit, je veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que si j'étais un exemple, vous voyez que Paul prenait sa responsabilité. Il disait, non, moi, je suis quelqu'un de responsable, il disait. Moi, j'ai annoncé un message et je veux pas qu'après on vienne dire que finalement, je suis tombé, que j'ai fait ci et que j'ai fait ça et ça renie quoi le message que j'ai prêché. Et ça, c'est vraiment la conscience du ministère. C'est l'attitude du bon ministère, de celui qui exerce le ministère. C'est de dire, voilà, si j'ai prêché ça, je veux pas qu'après on vienne dire que j'étais un mauvais exemple aux autres. Je veux pas que les autres puissent dire ça de moi après. Je veux pas être disqualifié dans le sens où, finalement, il met la responsabilité sur lui, mais pas la responsabilité sur Dieu, je vous le rappelle. Je veux pas être désapprouvé. Mais ce que je veux, c'est prêcher, être un exemple dans le ministère. Et c'est pour ça que, quand on entre dans le ministère, quand on accepte l'appel de Dieu, sachez qu'il y a une décision à prendre. Il y a beaucoup de choses auxquelles on doit renoncer et qui sont légitimes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui sont légitimes, c'est-à-dire que même des choses qu'il faudra subir. sous le poids, justement, du ministère de la responsabilité. Rappelez-vous, si vous acceptez l'appel de Dieu et que vous marchez dans l'appel de Dieu, je vous le dis, il y aura des pressions. Ça, vous ne faites pas d'illusion. Et c'est là où vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est là où vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est pas en étant membre d'une église, en faisant quelques trucs à droite et à gauche et dire, voilà, maintenant je suis un grand prédicateur. Hein. C'est le jour où tu seras toi-même en charge de ton propre ministère avec ta propre onction. Là, tu pourras parler. Et que tu auras une famille, tu auras un ministère qui dépendra des finances de ta foi. Ouais, là tu commenceras à parler. Tu pourras dire qui tu es vraiment. Et on verra combien de temps tu vas tenir. Non, mais je vous assure. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui sont... C'est vrai, quand on est chrétien, bon, on a un boulot, ça va, tout va bien. T'es là, tu vois les gens dimanche après dimanche, jour après jour, semaine après semaine, exercer le ministère. Et puis, bon, c'est facile. Ouais, finalement, moi je crois qu'il faudrait qu'on fasse ci comme ça et comme ça, comme ça. D'accord. Mais le jour où tu seras là, que tu auras ta propre onction du ministère, que Dieu t'aura donné ta propre œuvre, que tu auras répondu à son appel, que tu produiras tes propres fruits, là, on en discute. C'est vrai, je vous assure. Parce que souvent on parle, mais on dit des choses vaines. Moi j'en ai dit bien des fois, vous savez. Bien des fois. Hein. J'étais pas dans le ministère, je ne savais absolument pas du tout ce que c'était. C'est le jour où tu es dans le ministère que tu commences à comprendre. Et tu commences à avoir quelques années dans le ministère. Tu dis, mais finalement, ce que j'avais entendu là, c'était vrai et je ne savais pas. Je pensais savoir mieux que les autres. Et finalement, tu t'aperçois que c'est là où tu vis, tu apprends et tu développes. Parce que de toute façon, je vous l'ai dit, dans un ministère, vous serez confronté à certains problèmes. Vous voyez, par exemple, des gens... Ils négligent complètement le côté financier du ministère. Pour eux, c'est des gestionnaires pourris. Pour eux, non, ces histoires-là, je veux pas en entendre parler. Ils enterrent ce problème, mais c'est un problème de la vie de tous les jours dans un ministère. Si vous voulez pas toucher un billet de banque, ou vous voulez pas faire une comptabilité, laissez tomber, venez pas dans le ministère. Vous allez être fusillé d'avance. Si vous êtes pas prêt à ce qu'on dise des mensonges sur vous, laissez tomber le ministère, parce qu'on vous dira des mensonges sur vous. Ça, je vous le dis. On vous portera des propos qui sont faux. On vous dira que vous avez dit ça et que vous avez voulu dire ça, que vous avez fait ça et des choses qui sont fausses. Et si c'est vrai à ce moment-là, c'est à vous de vous examiner, c'est à nous de nous examiner. Regardez, moi j'ai beaucoup vu ces derniers temps la façon dont Jésus avait des pressions dans son ministère. Ah, ça j'ai découvert ça dans les évangiles, j'avais jamais vu ça avant. Si vous regardez la façon dont Jésus avait des pressions dans son ministère, relisez un jour les évangiles. En regardant combien de fois le Seigneur a été confronté aux pressions. Pression de la foule qui voulait la guérison, par exemple. Pression des pharisiens qu'il traitait tous les noms. Pression de l'armée romaine. Pression de tout un tas de gens qui comprenaient rien. Des gens qui voulaient voir que des miracles et finalement leur cœur était dur, était pourri. Pression, tout un tas de pressions. Des gens qui l'amenaient dans des pièges. Si vous regardez bien les évangiles, vous allez voir un peu. Le nombre de fois où Jésus a été pressé par les gens, par les circonstances, c'est absolument phénoménal. C'est phénoménal. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un ministère, il y a des choses qui se produisent et il y a une réaction. Le diable essaie d'utiliser les gens du monde et même des chrétiens pour vous faire du mal. Ça, c'est clair. Si vous êtes loin, il y aura la persécution. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah, moi, j'avais lu ça comme ça, ce verset-là. Mais le jour où ça se passe vraiment et qu'on cherche vraiment des histoires pour rien ou pour pas grand chose, c'est là où tu réalises, c'est là où tu as les pressions. Mieux tu es préparé, mieux ça vaut. Mais sache qu'il y aura des pressions. Il y aura des pressions, ça, faites pas d'illusions. Et Paul en parle ici. Il dit, je tiens mon corps assujetti, je veux pas être disqualifié. J'ai choisi de marcher avec le Seigneur, j'ai choisi de servir le Seigneur et je fais attention à ma vie personnelle. C'est ce que Paul disait ici. Je veux pas être disqualifié. Donc ça prouve qu'on peut être disqualifié, se disqualifier soi-même. Passer à côté de ce que Dieu avait pour nous. Alors, il y a encore bien des choses que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, on va donner la définition de la médiocrité. Le mot médiocre, ou médiocrité plutôt, ça veut dire être à la moitié du chemin. Ça veut dire être à la moitié du chemin. C'est quelqu'un qui se contente du minimum. C'est quelqu'un qui se contente du minimum. Bon, je suis passé, j'ai eu 10 sur 20, bah, je suis passé quand même, quoi. Je suis passé, ça va, quoi. Quelqu'un qui se contente toujours du minimum. C'est faire la moitié du chemin, en fait. Et puis, au bout d'un moment, s'arrêter en route. Puis dire, voilà, moi, je connais tout, c'est bon, c'est fini. Je suis arrivé, si vous voulez. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de vraiment profond. C'est, j'assure le minimum, service minimum, vous savez. J'assure, c'est tout. Mais je veux pas plus. Et ça, c'est la médiocrité. Et dans le ministère, on ne peut pas se permettre de faire ça. Le jour où tu te présentes, que tu sais que tu vas prêcher ou que tu vas enseigner, tu dois te présenter avec des choses consistantes. Tu dois te présenter à l'heure. Tu dois tout prévoir. Un pasteur, il doit tout prévoir pour que ses brebis puissent avoir l'atmosphère dans laquelle, au travers de laquelle ils vont grandir. Ça, c'est la responsabilité du pasteur. On parlera beaucoup du pasteur parce que c'est celui qu'on voit le plus, disons, dans le corps de Christ. Mais un pasteur, il doit tout faire pour que ses brebis puissent avoir l'atmosphère dans laquelle elles vont grandir. Spirituellement, dans les réunions, dans le bâtiment, dans tout. À la fois dans le domaine surnaturel et dans le domaine naturel. Il doit prévoir ça. Il doit chercher ça. Si c'est pas le cas, là, il y a un problème. Il doit tout prévoir, il doit tout faire pour que. Maintenant, il y aura des améliorations. Parce que si quelqu'un démarre une église au départ, souvent, ça va être dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Mais s'il est fidèle dans l'œuvre du Seigneur, la bénédiction sera là. Si Dieu lui a demandé de faire ça, la bénédiction est là. Et à la fois dans le surnaturel, dans le spirituel, les gens vont grandir, les gens vont être sauvés. Il va y avoir une production aussi de gens qui vont pouvoir aider dans l'œuvre de Dieu. D'autres ministères qui vont commencer à se lever à partir de ce ministère-là. Et dans le naturel aussi, il va y avoir une progression évidente. À la fois dans la façon de faire les réunions, dans ce que l'Église va acquérir comme bien, dans la façon de gérer, dans le bâtiment, dans tout ça. Ça demande le temps que ça demande. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que si quelqu'un est pasteur, il doit prévoir pour que tous les gens soient servis correctement. Que les gens soient là, qu'il y ait l'ambiance, qu'il y ait tout, pour que les gens puissent, l'atmosphère, pour que les gens puissent être bien. Si vous avez un pasteur qui s'en fout, là il y a un problème. Ou qui dit ce qui m'intéresse, c'est que vous mettiez des sous dans le panier parce que c'est comme ça que je mange. Là vous avez un problème. Et moi je vous donne un petit morceau de la parole de Dieu, on s'en fout, on ne sait pas exactement ce qu'on prêche, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui vous diront pas ça comme ça, mais qui le penseront. Il faut être clair. Mais je suis désolé, c'est d'abord les gens. Si vous acceptez le ministère, vous acceptez de vous occuper des gens. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que des fois on a envie de le faire, des fois on n'a pas envie de le faire. Des jours on a envie, des jours on n'a pas envie de le faire. Mais c'est Dieu qui nous appelle, et à ce moment-là on se met dans la bonne disposition, et Dieu nous bénit au travers de ça. Mais vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui viennent. Et ça va demander de chercher à toujours améliorer. Toujours s'améliorer. Si vous voyez quelqu'un qui prêche ou qui enseigne, et puis 10 ans après vous le revoyez, si vous voyez aucune amélioration dans son ministère, spirituellement parlant, et dans le domaine du naturel, ça veut dire que cette personne est médiocre. Et il y a des gens comme ça qu'on voit. Pendant des années, c'est toujours pareil. Toujours la même chose. C'est toujours aussi médiocre. On se dit, d'accord. C'est pas grave, s'il ouvre la bouche, on sait à peu près où il en est. Et c'est dommage. Je suis là, je reviens. Tu reviens 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et tu vois que ça n'a pas bougé finalement. C'est toujours la même chose. Dans le surnaturel et dans le naturel. Donc finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas avancé. C'est quelqu'un qui souvent n'a pas cherché l'excellence, qui n'a pas cherché à avancer avec Dieu dans son ministère. On continuera la fois suivante.